Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en ce mercredi 4 juin 2025. Aujourd'hui nous sommes mardi mais c'est le mercredi que vous nous écoutez. Je suis ce soir en présence de Sophie Deschamps et de Stéphane Backman que je présenterai juste après vous avoir présenté ce qu'est La Forêt des Possibles. La Forêt des Possibles, c'est l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des enjeux de transition écologique et sociale de Marseille et de sa région. Ensemble, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, enfin individuellement, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt, un écosystème qui vous invite, vous aussi, à trouver votre juste place et à agir à un endroit qui soit pertinent pour vous. Et comment est-ce qu'on peut trouver cette juste place au-delà d'écouter ces émissions semaine après semaine? Eh bien, La Forêt des Possibles vous propose aussi des ateliers qui, autour de l'image de l'arbre, vous invitent à questionner vos racines, vos questions, vos aspirations, vos joies, vos espérances. Et on en parlera ce soir de la question de l'espérance pour ensuite vous connecter au plus juste vers les dynamiques du territoire qui correspondent à vos aspirations. Et puis, pour aller encore plus loin, on a aussi un wiki qui s'appelle L'Arbre des Imaginaires, qui vous permet d'aller chercher tout un tas de ressources. Et des ressources, ce soir, on va en parler de beaucoup, notamment de lectures qui vont nous envoyer vers de nouveaux mondes. Et cette forêt des possibles, donc, elle vise à pouvoir essayer de décomposer ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. C'est quoi le triangle de l'inaction? C'est le fait des citoyens, les entreprises et les collectivités publiques et politiques qui souvent se renvoient un petit peu la balle, de dire « Ah ben oui, mais c'est pas moi, c'est la faute des autres ». Et bien là, on essaie de construire un écosystème complet qui accompagne les citoyens, qui accompagne les entreprises, qui accompagne les nouveaux imaginaires et la transformation de ce territoire. Et voilà. Ce soir, on va parler d'un festival de la parole, un festival qui finalement est assez proche de ses aspirations de comment est-ce qu'on trouve sa place, comment est-ce que par la parole on arrive à pouvoir s'ajuster avec soi-même et s'ajuster avec les autres et s'ajuster avec le monde. Et je suis ravi de pouvoir vous recevoir tous les deux. Bonsoir Sophie Deschamps.
Bonsoir.
Bonsoir Stéphane Backman.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine, vous savez un petit peu le programme qu'on propose, c'est d'aller du moi au nous et du nous au tout, de savoir en fait qui sont les personnes qu'on reçoit, quelles ont été leurs questions, leur parcours, leur cheminement, leurs différentes racines, comment est-ce qu'ils ont fait commun sur un projet et puis comment est-ce que ce projet, à son échelle, participe à transformer la société. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de présenter vos racines respectives. Quand on a préparé cette émission, c'était touchant parce que c'était des racines qui s'entremêlaient et que je trouvais très belles d'apprentissage de l'écoute dans toute la diversité et la différence qui vous rassemble malgré tout. Est-ce que quelqu'un veut commencer?
Je me lance.
Avec plaisir,
alors,
Stéphane.
Alors tout d'abord, en tout cas, je suis très heureux et honoré d'être là, donc merci beaucoup. Alors pour me présenter, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc tout d'abord, je suis né à Marseille il y a quelques années maintenant, et j'ai grandi là, sur Marseille et la région marseillaise, sur Aubagne et sur différents quartiers. Donc j'ai commencé autour de Mazargues et puis un petit peu sur La Rose, enfin voilà. Et puis je suis parti parce que j'ai trouvé ma vocation et donc j'ai été amené à aller ailleurs. Alors quelle était cette vocation? C'est que je me suis senti appelé et j'ai été confirmé, en tout cas appelé également à cela par d'autres. Je me suis senti appelé à être pasteur. Donc moi, si je me présente, c'est je suis un croyant. Donc autrefois, il y avait une majorité de la société, tout le monde presque était croyant. Hein, donc du coup, quand on se présentait toujours en disant de quelle croyance, hein, de quelle obédience, voilà, moi je suis catho, je suis musulman, je ne sais pas quoi. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, les croyants sont une minorité dans notre société. Et donc, y a une parole qui se perd. C'est cette parole-là qui est, à mon avis, précieuse, à arriver à retrouver, à réentendre, parce qu'elle a été assez caricaturée et tout ça. Hein. Donc moi, je suis un croyant. Et donc, après, lorsqu'on parle de foi, il faut avoir beaucoup de respect, d'humilité. C'est-à-dire, je ne suis pas venu avec ma croyance, je vous expliquais ce que je crois moi tout seul. Mais donc, on rentre dans une grammaire, une histoire qui nous précède, qui est longue, il y a des siècles là, qui nous accompagnent. Et donc là, mon histoire, la grammaire dans laquelle je suis rentré, dans laquelle je me suis retrouvé et où j'habite, c'est une tradition chrétienne et dans ce christianisme, une tradition protestante. Et donc là, on est dans un grand héritage qui part avec, il y a quelques millénaires, un appel à la foi qu'on retrouve dans les Écritures bibliques. C'est la vocation d'Abraham, il est appelé à partir. Et c'est intéressant parce que celui qui est le père des croyants, en tout cas pour les musulmans, les juifs, les chrétiens, Abraham, quand il est appelé, ça y est, on lui dit voilà, quitte ton pays et tout ça. C'est l'appel exact, c'est de dire va vers toi au pays que je te montrerai. Et donc c'est l'appel de la foi. Pour moi, c'est un appel qui nous fait qu'on se découvre d'abord soi-même et on se trouve chemin faisant parce qu'il y a un autre qui nous amène à nous découvrir nous-mêmes. Et voilà, c'est cette perspective-là. Donc avec les siècles, ça s'est affiné. En tout cas pour moi, cet appel à la foi, c'est un appel qui se rencontre en Dieu qui vient vers nous. Et puis alors après, dans le christianisme, on a trouvé en Christ quelqu'un qui est venu comme l'un de nous, qui s'est fait proche de nous, qui nous accompagne. Et aujourd'hui, on vit toujours de cette espérance-là. Je crois que ce qui est au fondement de ma foi, d'être un croyant, c'est que ce Dieu-là, je crois qu'il nous aime et je crois qu'il est amour. Alors ça, c'est incroyable de dire ça quand on voit comment le monde tourne, mais quand on le découvre, c'est un très précieux secours et accompagnement.
Merci, waouh. Merci Stéphane pour cette entrée en matière. Ça me touche beaucoup parce que moi aussi j'ai une croyance qui n'est pas celle d'être protestant, mais malgré tout je le partage bien volontiers ici. C'est aussi tout l'intérêt de commencer ces questions sur la question des racines. C'est aussi de présenter là d'où chacune vient et qu'est-ce qui nous meut. On n'en parle pas très souvent en fait dans l'émission de La Forêt des Possibles, malgré tout, de la question de la foi, qui pourtant... centrale pour certaines personnes, toi.
C'est aussi peu de circonstances, c'est-à-dire on va parler du Festival des Arts de la Parole qui justement a cette particularité, on y reviendra, d'allier cette dimension-là. Mais enfin, c'est pour ça que j'en parle en introduction.
De l'allier et puis de l'allier avec des personnes qui peuvent ne pas partager cette foi-là.
Bien sûr.
Et puis avoir d'autres conceptions philosophiques et éthiques de notre place dans le monde. Ouais. Et donc là, je me tourne vers toi, Sophie. Il me semble que tu ne partages pas tout à fait cette foi-là. Et pourtant, ce qui est très beau, c'est que vous portez un projet commun dont on va parler juste après. Et donc, je te laisse à ton tour présenter tes racines.
Merci. Alors, ce qu'on a en commun, effectivement, c'est que je suis marseillaise aussi d'origine et j'ai vécu toute ma vie. Et effectivement, ce qui nous différencie peut-être avec Stéphane, c'est que moi, je ne crois pas. Mais ce qui nous rassemble beaucoup, ce sont les valeurs et ce qu'on veut partager avec les autres. Et c'est pour ça que depuis 5 ans maintenant, on collabore de façon de plus en plus rapprochée sur ce projet du festival et sur tout ce qui est rattaché. Donc effectivement, moi j'arrive d'un monde totalement différent, j'arrive du monde de l'entreprise, de l'économie, pour avoir pendant 30 ans travaillé dans une grosse institution qui est la Chambre de commerce, où j'ai fait toute ma carrière. Et puis il y a 3 ans à peu près, j'ai été appelée moi aussi à devenir moi, mais appelée par la parole. J'ai commencé à pratiquer l'art oratoire et je me suis rendu compte que c'était là que j'étais bien, que c'était ce que je voulais partager avec les autres, aussi bien par des textes que je peux dire ou par les cours maintenant que je donne pour amener les autres à se saisir de leurs propres paroles et partager des textes. Et donc je suis allée vers moi-même il y a 3 ans, j'ai totalement changé de vie, de métier, et aujourd'hui j'œuvre en effet autour de la parole.
La parole, c'est un mot que vous avez employé tous les deux, c'est aussi le nom du festival. C'est sûr que quand on va dans des temples ou dans des églises, la question de la parole, moi, m'évoque un imaginaire qui est complètement différent de quand je t'entends, Sophie, où je vais plus entendre pour toi, Stéphane, la question d'une parole de Dieu, la lecture Première lecture, deuxième lecture dans une église, là où je pourrais plus entendre, Sophie, une parole politique ou une parole littéraire. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie autour de ce mot qui génère des imaginaires qui peuvent être différents, de travailler ensemble et de vous retrouver ? Et avec d'autres, parce que je pense que vous n'êtes pas tout seul.
On n'est pas tout seul, mais je crois que ce sont les valeurs qu'on partage et l'envie de partager aux autres. Stéphane, qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce qui fait que...
Oui, c'est ce qui a été dès le départ pour ce festival, c'était le constat que la parole devait être retrouvée. Elle est assez dévaluée, elle se perd. Et donc, pour un homme d'église, pour moi, je suis pasteur, si le support de la parole n'a plus de sens, si à partir du moment où quelqu'un parle, on se dit c'est n'importe quoi ou c'est du vide, qu'est-ce qu'on a à communiquer ? Et donc, le festival de l'art de la parole, c'est de redonner à la parole toute sa place. Et du coup, le propre de la parole, c'est qu'elle se risque, elle est particulière, nous l'exprimons, c'est ma manière de comprendre et de dire les choses. Et toute la richesse, c'est du coup d'écouter la parole de l'autre et de la confronter à la sienne, de celle qu'on a compris. Et pour ça, on peut le faire d'une manière respectueuse, ouverte, en recherchant de la qualité, avec des formes très différentes, des contes, du débat, du théâtre, enfin voilà, tout ce qui peut décliner l'art de parole, mais aussi par une prédication, avec des cultes, des célébrations. Mmh. Et donc ce souci, ce désir de redonner à la parole une place qui soit honorable et honorée.
Tu as parlé de la parole et tu as parlé de l'écoute. Ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent, du fait qu'on ait deux oreilles et une seule bouche pour le fait d'entendre et d'écouter deux fois plus qu'on ne puisse partager. Est-ce que c'est aussi, Sophie, que la manière dont voilà, tu voulais partager la parole ? Moi, là, quand je vous écoutais, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle « Sapiens » de Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est l'histoire de l'humanité, rien que ça. Et donc par un universitaire israélien qui reprend toute l'histoire de l'humanité. Et ce qui est assez fascinant quand on lit ce livre, c'est qu'on n'apprend rien de fondamentalement nouveau dans la manière dont... Enfin, dans les anecdotes et dans tout ce qui est raconté, mais c'est la manière de les présenter et surtout le fait que les humains se retrouvent autour d'imaginaires et d'histoires communes. Et donc, il fait aussi l'histoire des imaginaires. Qu'est-ce qui, à un moment, fait qu'à une société s'est retrouvée par la parole et par la projection dans le fait de pouvoir aller dans telle direction, se faire confiance et donc tout un tas d'imaginaires collectifs ensuite qui décomposent, qui peuvent être la question de l'État, la question de l'argent, la question d'un certain nombre de libertés fondamentales, la question de la foi. Enfin, moi, ça m'a complètement éveillé que de faire cette lecture-là sur le fait que pour faire société, il nous fallait partager des imaginaires et c'était par la parole qu'on arrivait à se projeter dans un certain nombre de mondes et ensuite de partager parfois des réalités complexes avec des êtres humains qu'on pourrait ne pas connaître de prime abord, mais on parle de liberté, et oui, ça veut dire quelque chose pour vous, comme pour moi, alors que c'est un concept. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez toi, toutes ces réflexions ?
Absolument, c'est aussi pour ça que je suis allée vers où je vais aujourd'hui. Quand on constitue des groupes pour les amener à l'art oratoire ou à prendre la parole, ben, ce sont des personnes qui arrivent de tout endroit, qui sont très différentes, et par leur donner la possibilité de prendre leur propre parole, d'arriver à exprimer des choses que jusqu'à présent ils ont en eux mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer et qui sont parfois différentes des autres, mais se retrouver sur ces idées-là, apprendre à débattre dans le respect de l'autre, et puis aussi passer par des textes littéraires, contemporains ou anciens, et retrouver une actualité dans ces textes-là et se retrouver autour de ces textes et pouvoir les partager, ça fait partie aussi de cet apprentissage du vivre ensemble et de faire ensemble et de partager.
Mais alors, comment est-ce qu'on devient soi avec la parole ? Grosse question. Hein.
C'est en tout cas, pour moi, ça renvoie, là, on est au début du texte biblique, là. C'est-à-dire que dans les premiers mots de la Genèse, c'est au commencement, la terre était informe et vide, hein, le tohu-bohu, hein, et Dieu dit, et c'est la parole qui va organisé. Dieu dit, la première chose qu'il dit, c'est séparer ténèbres, lumière, etc. Et donc, on a la parole, c'est ce qui vient structurer dans le chaos. Et du coup, structurer, ça veut dire faire émerger et faire vivre. Et donc, après, on a toute cette succession des paroles que Dieu pose et qui fait que on va aboutir au bout de X jours, hein, donc c'est des jours symboliques, hein, mais où l'être humain arrive à se positionner et existe. Et du coup, c'est beau parce que dans ce récit, à la fin, Dieu se tait et il dit, ouais, il y a l'homme qui est là, hein, donc l'homme et la femme, et il dit ça, c'est très bon. Et du coup, c'est une manière de dire, il y a une parole qui tous hein, nous précède, et elle nous invite à prendre la parole. Et du coup, alors prenons-la. Et c'est là où, pour moi, je rejoins ce que vous disiez là sur la liberté. C'est ça qui est, c'est une invitation à vivre, à être et à parler.
Sophie, est-ce que c'est quelque chose que tu partages ? Parce que là, on a eu l'approche spirituelle de comment on devient libre et comment on devient soi grâce à la parole et la parole de Dieu, puis ensuite la sienne. Mais j'imagine que toi, tu as peut-être un autre prisme sur la manière de devenir soi.
Finalement, c'est assez semblable, même si je ne vais pas parler de la parole de Dieu. Je laisse ça à Stéphane et on est très complémentaires sur le sujet. Mais sa propre parole, en effet, aller la chercher en soi, savoir s'exprimer, aller retrouver chez d'autres des paroles qu'ils peuvent dire différemment et se rendre compte que finalement, ce n'est pas parce qu'on le dit différemment qu'on ne dit pas la même chose et qu'on peut s'y retrouver. C'est aussi être soi par mes différences, mais aussi par mes ressemblances aux autres. Et donc être soi et être libre de l'être.
Ça me fait fondamentalement penser à notre atelier. Alors là, je vais faire mon auto-promo, mais en même temps, je trouve que c'est dans le sens du propos des ateliers de la forêt des possibles, où on invite chacun et chacune à partager leurs différentes racines pour ensuite se retrouver sur un tronc commun, qui sont à la fois leur manière de vivre individuellement sur comment ils arrivent à trouver un équilibre, mais aussi qu'est-ce qu'ils vont partager. Et ce qui est intéressant avec cette image-là, c'est qu'elle parle absolument à tout le monde, aux croyants comme aux non-croyants, aux personnes riches comme aux personnes pauvres, de droite comme de gauche. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans la maïeutique, c'est que bon, il faut poser une intention, un cadre, un espace de bienveillance, mais c'est un cheminement sur d'où on vient, de quoi on a besoin, de quoi on a peur et où est-ce qu'on va. Pour vers quelle espérance, pour reprendre tes termes tout à l'heure à Stéphane. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met des personnes qui sont complètement différentes autour de la table, c'est difficile de les juger parce qu'elles se sont placées en disant « moi, j'ai vécu ça dans ma vie et donc j'ai eu peur de ça et aujourd'hui j'ai besoin de ci ». Alors que si elle m'avait juste parlé de son besoin au début, peut-être que j'aurais pu la juger. Je peux prendre des exemples, hein. Quelqu'un par exemple qui me disait « moi je travaille dans la communication d'une grande entreprise et je veux gagner plein d'argent ». Peut-être que j'aurais jugé. Puis quand elle m'explique en fait « je suis une maman seule, je ne peux pas m'occuper de mes enfants autrement que de gagner beaucoup d'argent parce que si jamais j'arrive pas à subvenir aux besoins, comment on va vivre le petit ?» Et c'est cette parole qui s'est déroulée qui a permis de pouvoir identifier sa trajectoire et qu'elle identifie la mienne en retour et comment on s'est noué dans ces tissus narratifs communs. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve dans ce festival ? Est-ce que vous avez des ateliers, je notais qu'il y avait des formations, des réflexions, des animations, des contes.
Alors c'est vrai que c'est un grand florilège, comme je disais, c'est un festival des arts de la parole, c'est-à-dire comment, sous toutes ces différentes formes, que ça aille dans la poésie, dans le slam, dans le conte, enfin, comment est-ce qu'on peut la travailler, là, du coup aussi, hein, laisser les textes et cette forme nous travailler parce que ça fait résonner en nous beaucoup plus que juste les mots qu'on est en train d'utiliser. Et donc, il y a à la fois des moments. Alors là, on rentre un peu peut-être dans la description du festival lui-même, mais on ne voulait pas que ce soit un festival passif, c'est-à-dire... Si on vient, on s'assoit, on regarde, on voit le spectacle, on dit « waouh, ils ont bien parlé » et on repart. Mais comment est-ce qu'on peut partager, en discuter et donc aussi être formé ? Donc il y a des ateliers, il y a aussi un lieu qui est central, qui est très, très chouette, hein, c'est la cour de récréation du village. On a appelé ça le lieu, on en parle à la récré, et c'est-à-dire qu'après les spectacles, dans l'après-midi, il y a des projections de films aussi, hein, avec des débats, on peut aller s'asseoir là et discuter des thèmes abordés ou bien d'autres choses, hein, s'il y a pas, on n'est pas obligé, mais simplement être et échanger des mots et rencontrer. Voilà, c'est un grand espace de parole libre. Donc, c'est vrai que dans l'élan initial, on avait fait la première formule. Là, on est au cinquième festival. Hein, donc, la première formule, tout se déroulait dans le temple. Et donc, en faisant le bilan avec le maire, je disais, mais c'est dommage. Les gens, ils disent, ah, c'est chouette, tout ça, mais ils n'osent pas franchir le mur, les portes, là, hein, et puis les murs, hein, du temple. Et même s'ils aiment beaucoup, là, hein, le temple de l'eau marée, il est magnifique et tout ça, et c'est leur temple. Enfin, il a ouvert les espaces de la ville, et il y a une plus grande collaboration, en fait, et un partenariat qui fait que cette parole, elle est partagée. Mais si je dis je veux aller dire quelque chose, je dois, comme tu disais, hein, je dois aussi écouter et accueillir. Et donc, c'est cette mise ensemble de paroles diverses autour d'un thème. Alors, chaque année, on met un axe particulier, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Hein. Et on met un axe particulier et on va partager autour de ce thème. On va le creuser comme un sillon. Et c'est un enrichissement. Hein. En tout cas, les bilans reçus jusqu'à maintenant sont très, très élogieux et très féconds. Donc, nous, ça nous stimule.
Oui, parce que c'est vrai que c'est le village tout entier, en fait, qui vit pendant 10 jours au rythme du festival.
Je pense que c'est le moment de donner les dates et l'endroit.
Vas-y, vas-y. Alors, c'est tout début juillet, c'est du 4 au 13 juillet. C'est tous les ans, c'est 10 journées complètes, du matin au soir. Donc, on propose des tas de choses. Et effectivement, c'est dans le village de Lourmarin. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi Lourmarin ? Même s'il y a des liens directs avec ce qu'on fait ici aussi à Marseille, au Parvis des Arts, qui est l'un des organisateurs. Bah, Lourmarin, c'est vrai que c'est parce que Stéphane, au départ, c'est toi qui as eu cette idée-là. Avec
oui,
le maire de Lourmarin.
Étant pasteur sur Lourmarin, et puis connaissant donc Olivier Nera, le directeur artistique, voilà, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, proposer quelque chose qui sortent un peu des murs et des habitudes.
Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des initiateurs, donc c'est le Parvis des Arts, qui est un théâtre marseillais depuis 40 ans, mais qui est dans le 3e arrondissement de Marseille, à côté de la Porte d'Aix, de l'autoroute, etc., qui est l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille. On travaille d'ailleurs avec les gens du quartier. Mais c'était intéressant, en même temps, cette différence est justement des choses qui nous reliaient à ce village de Lourmarin. Et l'idée, c'est de pouvoir faire venir à Lourmarin et de proposer ce festival non seulement aux Lourmarinois et à ceux qui sont autour, aux touristes qui sont là et qui ne font que passer, mais aussi à des personnes et des groupes qui vont venir, de Marseille ou d'ailleurs, de jeunes et de moins jeunes, qui vont venir pouvoir partager quelque chose à Lourmarin. Mmh. Et donc, on investit en effet tout le village. Donc, comme tu le disais, la cour de l'école, mais aussi le lavoir, le temple, l'église, le château, la fruitière numérique... Tout le village dans les rues également, on donne la parole à tous avec des propositions variées, des propositions gratuites et des propositions payantes, parce que la parole est aussi pour tous et que chacun doit pouvoir venir la partager et on doit pouvoir l'offrir à tous.
Oui, une parole pour tous et une parole avec une intention. Cette année, votre thème, c'est « Sitôt dit, sitôt fait ». Pour donner celle de quelques-uns des années précédentes, il y avait autrement dire et parlons mieux, parlons bien. Sitôt dit, sitôt fait, qu'est-ce que ça vous évoque ? Mm-hmm. Pourquoi l'avoir choisi ?
C'est par rapport à aujourd'hui. Donc on est toujours, je disais, hein, autour de comment on peut redonner toute sa place à la parole, tout son poids, la prendre au sérieux. Et sitôt dit, sitôt fait, c'est que souvent ou trop souvent, il y a des paroles qui sont dites et qui sont sans suite. Et y a des mots, du coup, qui se perdent, des engagements qui ne se tiennent pas. Et alors, est-ce que parce qu'on l'a dit, c'est fait ? Voilà, sitôt dit, sitôt fait, et il y a un point d'interrogation. Et en même temps, avec le sitôt, j'aime bien aussi sur le graphisme, hein, c'est plutôt une aube, c'est tôt, hein, on se lève pour un nouveau matin, on aimerait que la parole soit performative, qu'elle soit, qu'on habite cette parole et qu'on lui donne sens. Alors, c'est si tôt dans le sens tôt et de s'éveiller à une nouvelle matinée, un nouveau jour, et pas exigence d'immédiateté, sitôt dit, sitôt fait, sinon, voilà, c'est pas dans ce sens-là, mais... être, habiter sa parole et lui donner corps hein, dans l'avenir, dans le temps, être présent à sa parole. Et voilà, c'est tout un échange des réflexions là-dessus avec beaucoup d'étapes et de rendez-vous différents.
Et toi, Sophie, on va faire un petit tour de table. Comment, qu'est-ce que ça t'évoque, ce thème ?
Effectivement, la parole performative, effectivement, la parole qui fait acte à un moment donné parce que je dis quelque chose. La parole performative, c'est... À un moment donné, une parole est dite et les choses après ne sont plus les mêmes. Donc Stéphane est là, donc ça peut être le mariage, par exemple, mais ça peut être aussi une déclaration de guerre ou une déclaration d'amnistie, mais ça peut être des tas d'autres choses. Donc là, cette parole qui change les choses. À un moment donné, avoir conscience aussi que quand on prononce des mots, ils ne sont pas neutres qu'il va y avoir potentiellement des suites. Donc c'est important. Il y a aussi cette idée de est-ce que l'on fait toujours ce que l'on dit ou est-ce que l'on doit dire ce que l'on fait finalement ? Est-ce qu'on est obligé de communiquer sur ce qu'on fait aujourd'hui pour le faire bien et pour faire le bien ?
Moi, je vais continuer le tour de table. Alors, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir autant que vous, mais quand on préparait l'émission, il y avait deux choses qui me venaient à l'esprit assez rapidement. C'était une approche autour du temps et une approche autour de l'espace par rapport à cette affirmation, enfin, sitôt dit, sitôt fait. Sur le rapport au temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté performatif, sur une société qui s'accélère, qui va de plus en plus vite et qui finalement ne laisse pas le temps à la patience et à une parole qui peut être toute petite et puis qui va germer ou parfois aussi pourrir. Hein. Mais en tout cas, ce rapport à la lenteur et ce rapport au temps long qui est parfois un peu broyé par le processus de grande accélération de notre époque, et on va essayer d'aller au-delà tout à l'heure quand on va parler d'espérance en deuxième partie. Et après, il y a le rapport culturel, et donc qui est aussi dans une approche géographique. Moi, je vais me placer très humblement, je ne suis pas né à Marseille, contrairement à vous, je n'ai pas la même culture de la parole qu'ici. Et parfois, ça me joue des tours dans cette ville. Quand bien même je l'aime éperdument, c'est pas la question, ne me tombez pas dessus. Mais ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'être pris en fait par une parole de quelqu'un qui, à mes yeux, s'engageait. C'est-à-dire, il a dit quelque chose, donc il va se passer ce qu'il a dit. Et non. Ou alors, peut-être, ne sait-on pas. Et je trouve ça très perturbant, parce que c'est pas du tout la culture qu'on m'a inculquée, où pour le coup, si on dit quelque chose, on le fait, et si on le fait... Et ce qu'on fait, on le dit, avec ce rapport un peu de transparence là-dessus. Et voilà. Et donc, c'est parfois à Marseille, il y a quelque chose où on me dit ah, il va se passer ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, le sitôt dit, sitôt fait, il me questionne parce qu'il me renvoie aussi à ma propre place et la manière dont on interagit au quotidien. Et est-ce que quand on dit quelque chose, ça veut dire la même chose pour soi ? Est-ce que c'est reçu de la même façon pour l'autre ? Voilà pour mon petit tour pour mais participer c'est, avec
c'est,
vous.
Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire, lorsqu'une parole est dite, on existe face à ça. Et est-ce que on est nié ? C'est ce qu'on ressent, en tout cas, lorsqu'en fait elle était dite et elle était sans suite. Donc on se retrouve demain à 14h, d'accord, ok, on y est, et puis personne d'autre vient, et on se dit mais c'est quoi, qui suis-je, qu'est-ce que je, enfin il y a une dévaluation de la parole mais aussi de l'autre.
C'est ce que je peux ressentir parfois, ouais. En tout cas une baisse d'énergie et à la longue un certain effritement de la dignité quand une parole ne signifie plus rien. Elle s'est envolée, et donc c'est la dignité. C'est une paupérisation générale. Voilà, mais bon, on peut aller vers des choses plus positives après.
Et du coup, là, on touche pour moi à ce qui est, en tout cas pour moi, un des défis. Si un pasteur, lors d'une célébration, dit tu es pardonné, reçois cette grâce et cette paix. Et ça, c'est des paroles qui, en fait, on s'en fout, c'est rien du tout, c'est du vide, c'est sans conséquence. Mais je n'ai plus rien à dire, en fait. Et donc, c'est réfléchir sur le poids de la parole. Le festival nous aide dans tous les domaines. Alors, ça, on peut aussi parler hein, du politique. Avec, j'entends souvent, hein, chaque fois qu'il y a des, on est un peu en campagne, c'est un peu les élections sont dans un an, les promesses elles fusent dans tous les sens, mais oh, personne n'y croit, c'est rien du tout, c'est du vide. Hein, voilà. Et donc, dans beaucoup de domaines, on a ce défi d'essayer d'être présent à sa parole et d'en être responsable. C'est pour le bien et la rencontre de l'autre. Hein.
Mais il y avait une émission politique sur France 2 il y a quelques années qui avait un titre qui était très éloquent, qui s'appelait « Des paroles et des actes ». Et je trouve qu'il était tout à fait... En tout cas, il était bien nommé. Depuis, ça a pris un autre nom. Mais je vois l'heure qui tourne et on arrive déjà au moment de notre respiration musicale pour être embarqué par d'autres flots de paroles qui sont plus des paroles chantées. Et je vous laisse nous présenter ce que vous avez décidé de nous faire écouter ce soir.
Alors oui, je vous avez compris, en étant du nombre des croyants, moi j'ai bien aimé cette chanson-là de Coldplay, et avec And So We Pray, c'est avec, dans les différentes strophes de ce chant, différentes circonstances qui font que, quelle que soit notre croyance, nos origines, notre milieu hein, culturel, on est amené à espérer et à prier. Et c'est sans doute une des dimensions qui réunit aussi, en tout cas, une immense majorité de personnes sur Terre. Et alors on prie. And so we pray.
Merci Stéphane. Eh bien, on se retrouve juste après dans l'émission de La Forêt des Possibles avec toi Stéphane et avec toi Sophie pour parler du Festival de la Parole de Lourmarin. À tout de suite.
Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys, pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Raye.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we
inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. 'Cause love's more than I can take. Yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray.
Thank you.
Nous sommes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Et nous sommes toujours avec Sophie Deschamps et Stéphane Bachmann qui nous présentent le Festival de la Parole de Lourmarin. Et dans la première partie d'émission, eh bien, nous avons écouté vos parcours respectifs, l'importance de pouvoir écouter et s'échanger des paroles et finalement des visions du monde qui nous amènent à pouvoir nous retrouver sur certains points. Et on a finalement beaucoup disserté sur ces questions. Et ce qu'on a envie de savoir avec impatience, c'est de savoir quel est ce fameux programme, qu'est-ce qui va être proposé à ce festival. Et je me tourne vers toi, Sophie, parce que je vois tes petites notes qui sont posées sur la table.
Okay, oui, merci. Donc ce festival, je le disais, c'est 10 jours. Globalement, vous dire que tous les matins, on va proposer des formations, des ateliers découvertes autour de la communication non violente, les chants polyphoniques, mais aussi on va faire une fresque des nouveaux récits, quelque chose que je pense que tu connais, ou porter la parole, donc des formations, des ateliers d'une demi-journée, un stage de gospel aussi. Tous les après-midi, des films avec des débats derrière. Tous les films ont été choisis en lien avec ce sujet-là, avec le sujet du festival. Je laisserai tout le monde de découvrir le programme plus précisément. Donc tous les après-midi des films et les soirs des spectacles. Alors en spectacle, pour donner des grands noms, parce qu'on est quand même très fiers de pouvoir faire venir à Lourmarin des personnes qui sont connues du monde artistique. On aura Robin Renucci le premier soir qui nous dira des textes de Giono. On aura Bérangère Varluzel, mise en scène par Charles Berling, qui va jouer un seul en scène autour de Hannah Arendt. C'est la pensée de Hannah Arendt. Donc sur le sujet qui nous préoccupe, c'est très important. On aura un seul en scène autour de Martin Luther King. Donc tout ça, toutes ces interventions seront très en lien avec le sujet qui nous préoccupe. Ce que j'aimerais préciser aussi, c'est qu'on a très envie que ce festival soit aussi un festival pour et par la jeunesse. Donc on est cette année partenaire d'un lycée, d'un centre social marseillais, et donc des jeunes seront là le mardi 8 après-midi. Les uns pour nous parler de devoirs de mémoire, parce qu'ils travaillent aujourd'hui sur l'esclavage, mais sur la guerre, sur tout ce qui a pu se passer aujourd'hui et comment ils peuvent faire perdurer ça. Et de jeunes gens lycéens qui viendront faire des plaidoiries autour de la phrase de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc, je ne vais pas tout détailler, mais en tous les cas, pensez-y, le festival, c'est le matin des ateliers, l'après-midi des films et tous les soirs à 18h30 puis à 20h30, un spectacle, un seul en scène, une lecture autour du thème qui nous préoccupe. Et le vendredi 12 juillet, une nuit de l'éthique où là nous aurons un philosophe, un sociologue, une femme politique qui débattront de la question du dire et du faire et de la distance entre le dire et le faire. Donc là aussi, on parlait de politique tout à l'heure, ce sera abordé également.
C'est un regard posé, du coup, sur notre société. C'est de manière croisée. C'est très riche. Une nuit de l'éthique, mais enfin, ça finit vers 1h du matin, quand même.
De 18h à 1h du matin.
Là, vous écoutez, il y a une myriade de questions qui viennent de naître dans ma tête et on n'aura que 20 minutes pour continuer l'émission. Surtout au vu, finalement, de la densité et parfois de la lourdeur, voire du côté tragique de certains des thèmes, et qui peuvent aussi résonner de manière très contemporaine avec des enjeux actuels, et où parfois je trouve que c'est un peu difficile dans la société. Là, je vais parler en mon jeu, hein, de parfois mettre des mots sur ce qui se passe. On voit bien en ce moment qu'on se déchire en France sur l'emploi de certains mots pour qualifier des situations dramatiques qui se passent autour de notre mère commune. Voilà, m'auront compris celles et ceux qui veulent me comprendre là-dessus. Et quand on continue à parler de parole, on parle du fond et on parle de la forme. Il y a un auteur que tu voulais nous faire, que tu voulais nous lire. Sophie, et donc sur le fond, bah, c'est ce que tu vas nous lire, sur la forme, c'est qu'il y a aussi parfois une grâce dans la lecture. Cet auteur, c'est quelqu'un qui a habité à Lourmarin, qui n'avait pas peur, lui, de dénoncer tous les massacres qui ont pu avoir lieu en Algérie quand il y vivait, ou aussi parfois toutes les pensées qui sont trop systémiques et totalitaires du communisme, et qui a osé dire que c'était une belle direction, mais qu'il fallait mettre plus de nuances dans ses lectures et dans son approche, c'est Albert Camus.
Absolument.
Et je te laisse le lire.
Alors c'est plutôt de la poésie d'Albert Camus, mais j'avais très envie de vous faire partager un texte d'Albert Camus, parce que qui dit Lourmarin, effectivement, dit Camus. Maintenant, les arbres s'étaient peuplés d'oiseaux. La terre soupirait lentement avant d'entrer dans l'ombre. Tout à l'heure, avec la première étoile, La nuit tombera sur la scène du monde. Les dieux éclatants du jour retourneront à leur mort quotidienne. Mais d'autres dieux viendront. Et pour être plus sombres, leurs faces ravagées seront nées cependant dans le cœur de la terre. À présent, du moins, l'incessante éclosion des vagues sur le sable me parvenait à travers tout un espace où dansait un pollen doré. Mer, campagne, silence, parfum de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui, de lui à moi, faisait naître l'amour. Amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race née du soleil et de la mer, vivante et savoureuse, qui puise sa grandeur dans sa simplicité et, debout sur les plages, adresse son sourire complice au sourire éclatant de ses ciels.
Merci beaucoup pour cette lecture, Sophie. Une lecture qui parle d'amour, ça recoupe le thème qu'on se donnait en tout début d'émission. Tu veux nous expliquer pourquoi il t'a ému, il t'a touché, tu venais nous partager ?
C'est difficile d'expliquer pourquoi un texte émeut, mais j'aurais pu choisir des tas de textes. Mais celui-là m'a semblé fort bien nommé, parce qu'on parle d'amour, on parle aussi de la nature, on parle du silence que l'on peut partager. Donc voilà, je ne pourrais pas en dire plus, c'est un texte qui m'émeut. C'est difficile d'expliquer pourquoi.
Ça me fait penser à certaines... une des propositions qu'on avait faites l'année dernière, par exemple, c'était déambuler avec des haltes de contes le soir sous les étoiles. Et c'était l'occasion, effectivement, d'être emmené dans une magie... Donc avec de l'imaginaire, mais aussi très concrètement, être entouré d'un certain lieu dans le village, puis ensuite un peu plus loin avec des pins, avec des... Voilà, cette nature qui aide à donner du poids finalement aux mots. Ouais, merci. Hein.
Et puis on retrouve la douceur méditerranéenne qui a toujours été au cœur de la pensée camusienne. Et ça fait aussi le lien avec la question de l'espérance. Il y a aussi un petit côté de sobriété. Quand on parle de sobriété heureuse, souvent on parle de Camus comme ayant été un des précurseurs de ces questions-là, et notamment parce que l'art de vivre méditerranéen ne nécessite pas beaucoup plus que d'écouter le chant du vent dans les branches des arbres.
Et puis de laisser le soleil. Et le soleil a beaucoup de place pour Camus aussi, qui vient chauffer et nous accompagne.
Oui, et du soleil, on en a ici à Marseille aussi. Mmh. Et ce que je vais vous proposer, c'est un exercice, on parlait de contes, on a parlé d'espérance, on a parlé d'amour et d'imaginaire. Ça va être un exercice croisé, une projection. C'est un exercice qui peut être difficile, mais je vous invite à ne pas vous mettre la pression. Peut-être même que vous pouvez commencer par fermer les yeux et vous imaginez que vous soyez à Lourmarin ou à Marseille, ou à Lourmarin, ou peut-être ailleurs, mais en tout cas en Provence, parce que c'est quand même là où nous habitons. Et nous sommes en 2035. Nous sommes en 2035, dans une 2035 qui n'a pas eu la catastrophe qu'on aurait pu annoncer en 2025. Une 2035 où l'espérance est plus forte. Elle a renaît, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est à vous de le décider. Et j'aimerais que vous ressentiez la joie que ça vous procure. C'est d'abord ça sur laquelle j'aimerais que vous vous concentriez. La joie, l'énergie qui vous habite, que de vous dire que vous habitez dans le monde dans lequel vous auriez souhaité vivre il y a 10 ans. Et puis ensuite, vous allez faire attention à vos différents sens. La question du goût, qu'est-ce que vous mangez dans cette Provence dans 10 ans. La question de la vue, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous touchez, qu'est-ce que vous entendez. Puis vous allez déambuler, vous allez prendre un vélo, puis vous allez vous promener quelque part. Puis vous allez continuer à faire attention à ce que vous entendez des bruits d'enfants qui rigolent dans les rues, et est-ce que vous sentez du pollen, et est-ce que même c'est débitumé que ce chemin que vous prenez. Et puis vous allez faire attention aux interactions que vous allez avoir autour de vous. Et vous allez goûter ça, et puis progressivement vous allez revenir. Et ce que j'aimerais que vous nous proposiez, c'est un conte commun qu'on allait l'inventer. Je suis sûr que vous êtes extrêmement doué, c'est la 5e édition. Et puis si jamais vous ne l'avez jamais fait, eh bien, il faut savoir parfois se proposer quelques petits challenges dans la vie. Et donc je vous propose de construire, lors de ces dernières minutes d'émission, un conte commun, partagé, de vos histoires respectives, singulières mais qui viennent se retrouver. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Et donc de jouer comme ça au ping-pong avec quelques bouts d'histoire et puis l'autre continue. Plus facile celui qui commence là. Il n'aura pas à reprendre après.
C'est peut-être le texte que j'ai lu avant qui m'y a poussé, mais pas vraiment. En fait, je me suis tout de suite projetée dans un univers et dans une région et dans un territoire rendu à la nature, en fait, avec capacité à se rapprocher des arbres, entendre les oiseaux. Donc je me suis tout de suite projetée dans quelque chose beaucoup plus proche de la nature, en fait.
Stéphane, dans un monde de nature, tu te retrouves dans la nature. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce que tu entends ?
Alors, comme il y a bien moins de bruit de machines et de bruit violent, écrasant, on entend beaucoup plus, bien sûr, les bruits des animaux, du vent, des oiseaux, mais aussi les rires, hein. Les rires des enfants, mais qui parlent avec les personnes âgées, ceux qui sont assis sur le banc, les paroles échangées entre les personnes qui rentrent du travail et d'autres qui vont faire les courses. Et qui échangent du coup sur ce qu'ils ont l'intention de faire, ce qu'ils ont eu la joie de vivre et ce qu'ils vont préparer maintenant. Donc c'est une douce ambiance avec beaucoup de partage.
Et alors qu'est-ce qui se prépare maintenant ? Je me retourne vers toi Sophie, je te laisse inventer.
En fait, toutes ces personnes, ce qui les caractérise, c'est le côté paisible en fait et la lenteur, le fait de pouvoir prendre le temps de s'arrêter en effet, discuter avec les gens que l'on croise, avec les enfants qui courent certes mais qui courent pour mieux venir retrouver leurs parents, leur prendre la main et partir avec eux, les emmener dans les champs. Donc c'est cette lenteur et ce plaisir en fait de goûter à la vie et de prendre le temps d'écouter ce qu'on peut entendre et de voir et de regarder ce qu'on peut voir.
Je vais me retourner vers Stéphane. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on ait plus de lenteur en 2035 ? Il y a bien eu un moment, il y a eu une bascule pour que ce monde finisse par reprendre ce goût-là.
C'est l'acceptation de l'autre qui fait qu'on est moins dans une compétition. J'essaye pas d'être plus grand, plus fort, plus riche, mais d'être heureux. De partager la vie, d'en recevoir les fruits du nécessaire pour vivre, mais aussi de faire que l'autre ait ce dont il a besoin. Et du coup, cette limite posée à la compétition fait qu'on gagne beaucoup de temps pour rencontrer, pour écouter. Alors de temps en temps, on se dispute, mais c'est avec un sourire, c'est parce que on a à cœur de dire quelque chose, mais l'autre personne ne voit pas les choses de la même manière. Mais ce n'est pas grave que ce ne soit pas de la même manière, au contraire. C'est ce qui fait qu'on affine, on tient compte de cette position différente. Et voilà, donc il y a des fois des discussions qui sont un peu plus animées, mais toujours avec cette tendresse et ce sourire qui fait que l'autre et à toute sa place, il le ressent, il l'entend.
Tu nous as parlé du fait qu'on était passé de la compétition à la coopération, et ça me rappelle ce que tu partageais au tout début, Sophie, quand tu nous as parlé de ton parcours, disant que tu avais changé de vie, qu'à un moment tu avais travaillé dans une chambre de commerce. Alors j'aimerais me poser la question, en 2035, ça est devenu quoi, une chambre de commerce ? Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que c'est la chambre de la coopération ? Comment est-ce qu'on organise les grandes places de marché ?
Effectivement, par la coopération, on oublie la compétition, on travaille tous ensemble dans le même objectif. en totale égalité et avec du partage de valeurs, du partage de compétences avec des personnes qui pourraient ne pas travailler dans une seule entreprise mais qui pourraient aller aider les autres qui ont besoin. Alors on connaît déjà aujourd'hui le mécénat de compétences, mais quelque chose de beaucoup plus ouvert et si on parle d'une chambre de commerce, mais en tous les cas un accompagnement donné aux hommes et aux structures pour travailler mieux ensemble.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à cette fresque que vous avez construite tous les deux
de vos mots ? Moi je vois un temple plein, c'est-à-dire simplement un lieu où on est content de se retrouver pour célébrer et dire merci pour tout ce qui est vécu. Dire merci à quelque chose ou quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, en tout cas, et qui accompagne. Donc voilà, la vie devient une grande célébration. Ça, c'est une source d'espérance.
Merci Stéphane. Sophie, toi, que vois-tu ?
Alors, tout à l'heure, Stéphane disait qu'il y avait des moments où il pouvait y avoir aussi quand même un peu des... Alors, s'il n'y a pas employé le mot altercation, mais des moments où les mots étaient un peu plus forts qu'à d'autres moments. Mais moi, j'ai envie de dire que j'aimerais que quand on se parle ou même quand on n'est pas d'accord, ce soit avec des jolis mots et que ce soit des mots d'auteur ou des mots piqués ailleurs ou qu'on ait retrouvé le goût des mots et que lorsqu'on se parle, en fait, ce soit pour se faire plaisir avec de jolies choses, même si c'est pour se dire des vérités, mais se les dire joliment.
Et ça, on n'a pas besoin d'attendre 2035 pour pouvoir entendre ces jolis mots. On peut entendre dès 2025, au mois de juillet, au Festival de Lourmarin. Je vous laisse repréciser les dates pour qu'on puisse vous retrouver avant de rendre l'antenne.
Du 4 au 13 juillet.
Et toutes les informations, on peut les trouver sur festivalartdelaparole.com.
Parfait.
Art avec S, hein. Festival Art avec S de la parole.com.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous présenter le Festival de la Parole et de la nécessité de savoir s'écouter malgré nos différences et de savoir trouver un tronc commun, quelles que soient nos visions sur le monde. On en a fondamentalement besoin aujourd'hui et j'espère que ces petites paroles porteront leurs fruits dans les oreilles de celles et ceux qui nous auront écoutés.
Merci pour votre émission.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et à bientôt sur La Forêt des Possibles. Et merci à Sidi Diallo en régie, sans qui ça n'aurait pas été possible de l'enregistrer. Merci. Bonne soirée à vous toutes et tous.